Madame de Kermadec, bonjour.
Bonjour.
Madame de Kermadec, contente de vous rencontrer à nouveau. Alors, Madame de Kermadec, depuis la dernière fois, est-ce que quelque chose de marquant s'est passé dans votre vie professionnelle ?
Oui, depuis notre dernière rencontre, j'ai plus particulièrement réfléchi à un point qui était celui de l'accompagnement ou de l'aide qui pourrait être apportée aux adultes surdoués. Parce que dans les magazines, lors des missions, on entend souvent parler du profil de l'adulte surdoué, on reste dans une explication psychologique, mais ceci laisse la personne avec toutes ses questions, car quand bien même un test va valider une douance, ce test n'apporte pas pour autant les réponses dont la personne a besoin.
Vous signifiez par là que par rapport à un test qui apporte une réponse, un début de réponse, il faut le creuser dans un premier temps peut-être, et dans un deuxième temps ensuite soulever toutes les problématiques de la personne au fur et à mesure que celle-ci se présente à l'esprit de cette personne.
Tout à fait, parce que le test vient à la suite de questions personnelles, de soucis de comprendre qui l'on est, soucis de comprendre quelles sont les forces, quelles sont les vulnérabilités, comment nous pouvons mieux gérer dans la vie certains talents. Et donc le test doit être le départ d'une réflexion personnalisée, car on ne saurait raisonner en termes simplement de QI pour tout le monde. Une personne vient aussi avec son histoire, son passé, sa personnalité, quel que soit le chiffre de QI le jour du test. Donc le psychologue clinicien qui reçoit cette personne a une responsabilité vraiment très importante, puisqu'elle est à un moment charnière, un moment de décision qui vont avoir un impact très fort sur l'avenir de la personne.
Madame de Kermadec, de votre point de vue, comment est-ce que vous aborderiez ce suivi, peut-être cette prise en charge de cette personne par rapport à tout son environnement passé, présent et peut-être ses projections futures ?
Alors, il faut quand même préciser que tout le monde n'a pas besoin d'un suivi. Vous avez certains adultes surdoués qui ont eu un parcours classique, facile, avec une réussite personnelle et qui ne nécessitent aucun suivi particulier, qui peuvent choisir de parler de la douance, de ce qu'ils ont vécu avec une autre personne, mais cette rencontre reste parfois unique ou peut-être très brève. Vous avez d'autres adultes surdoués qui, par contre, ont vécu dans l'ignorance de leur douance et qui ont construit au travers des années certains doutes ou qui ont une image, je dirais, un petit peu floue de qui ils sont et ont besoin de cette rencontre ou d'un test pour consolider une confiance en eux et une certaine identité. Et vous avez une troisième catégorie d'adultes surdoués qui, eux, bien évidemment, non seulement ont vécu dans l'ignorance, mais ont aussi un environnement défavorable, un environnement critique, un environnement qui, pendant des années, leur a donné l'impression que c'était eux qui n'allaient pas, c'était eux qui étaient en tort. Or, ces personnes, quels étaient leurs choix ? Ces personnes, soit se déprimaient, c'est-à-dire avaient le sentiment que ce monde n'était pas pour eux et qu'ils ne trouveraient jamais une place confortable. Ces personnes ont pu s'angoisser aussi. Et ceux-là ont besoin de pouvoir reprendre avec quelqu'un qui peut tenir un discours positif sur cette différence, ont besoin de reprendre leurs expériences passées. J'ai quand même envie de rajouter que certaines personnes peuvent être particulièrement brillantes, avoir des QI très élevés, mais avoir une psychopathologie. On peut être brillant, on peut être bipolaire, on peut être brillant et je dirais être borderline, voire presque à la limite de la psychose. On peut être brillant intellectuellement et avoir un syndrome d'Asperger, par exemple. Donc, il est important que le psychologue clinicien qui reçoit l'adulte surdoué, que ce soit en entretien ou en test, ne perde jamais, je dirais, ce regard qui va permettre de comprendre dans quel contexte la douance existe. A-t-elle besoin d'être accompagnée ? Si oui, comment sensibiliser la personne ? Et apporter une réponse appropriée aux besoins. Il existe différentes formes de thérapie. Et je sais par exemple que certaines personnes sont soulagées par une thérapie comportementale. Cette thérapie, qui peut être tout à fait positive dans certains cas, intervient sur le symptôme. Ma formation analytique m'inciterait à dire que, bon, il peut être confortable de se débarrasser d'un symptôme, mais la cause du symptôme reste quand même à l'arrière. Donc un nouvel événement traumatique peut amener la personne à nouveau à dysfonctionner. Et c'est là où l'écoute du clinicien devient très importante. Certaines personnes vont faire de la méditation en pleine conscience. Il est vrai que, pour tous ceux qui souffrent d'un esprit qui galope, d'un esprit qui les martyrise parce que à vitesse grand V, constamment penchés sur des questions qui se multiplient, la personne peut un jour se sentir étouffée. Apprendre à focaliser sa pensée sur quelque chose, se débarrasser de cet embarras à nouveau est très précieux et je pense que la méditation en pleine conscience peut tout à fait aider, mais elle aussi, je dirais, ne va probablement pas aller à la source de cette précipitation de la pensée qui bien souvent est une manière d'endiguer l'angoisse. Plus ma pensée est occupée, moins je vais être pris par des pensées qui peuvent m'amener à avoir une crise d'angoisse importante. Donc je ne veux pas proposer une psychanalyse à tout le monde, ce serait absolument ridicule, mais je crois qu'il y a des réponses très différentes, des réponses appropriées à chaque adulte surdoué.
Madame de Kermadec, je crois que dans pas longtemps vous allez sortir un nouveau livre. Est-ce que vous pouvez nous le déflorer un peu, ne serait-ce qu'un petit peu, pour savoir de quoi il va traiter, mais sans aller jusque bien sûr dans les détails.
Disons que au cours des années, et plus particulièrement depuis la sortie de mon autre livre, je me suis posé une question, car je crois que nous n'avons pas encore toutes les réponses pour comprendre, je dirais, l'origine de la souffrance. Mon travail au cours des années avec les adultes surdoués m'a de plus en plus mené à me poser la question de quelle est l'origine de la souffrance de l'adulte surdoué. Et il est vrai que depuis des années, on répond, on souffre parce qu'on a un QI très élevé. Bien, c'est-à-dire on est capable de comprendre la complexité des situations, d'anticiper toutes conséquences plus ou moins positives ou négatives. Mais la souffrance ne me semble pas venir uniquement de ce QI particulièrement élevé, même s'il contribue dans le traitement de ce qui est à l'origine, s'il contribue aux difficultés de l'adulte surdoué. Pour moi, c'est quelque chose qui a trait à la relation et pas nécessairement à un QI trop élevé qui pourrait gêner des relations et des relations positives avec les autres. Car la différence, dans la mesure où elle est comprise, où elle est acceptée, fait que l'on peut permettre la différence de l'autre aussi et ne pas nécessairement vivre en négatif.
Madame de Kermadec, je vais peut-être introduire quelque chose qui m'est un peu personnel, bien que je pense qu'il y a des gens qui pensent un peu comme moi. Certains parlent d'une mémoire, une mémoire génétique qui serait peut-être aussi à l'origine de certains peut-être dysfonctionnements ou de surinvestissement d'une personne surdouée. Qu'en est-il de votre avis?
Mais effectivement, ces nouvelles recherches nous donnent de nouvelles pistes. Cette fameuse mémoire génétique, je ne vois pas pourquoi nous la nierions, mais il est évident que si nous avons hérité de certains traumatismes, sans savoir très bien d'ailleurs quel est le traumatisme, mais tout au moins des conséquences du traumatisme au travers des générations, qui serait la possibilité d'être plus anxieux, par exemple, la capacité à réagir plus vivement à une situation parce qu'elle fait écho à une situation dans l'histoire de générations précédentes, je pense que cette piste reste fondamentale. Après, il restera néanmoins important de traiter, d'aider la personne à gérer ce dont il a hérité et qui est d'autant plus difficile, je dirais, à analyser, que bien souvent il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il y a un travail, je dirais, comment pourrait-on appeler ça? C'est de l'archéologie, quelque part. Un certain travail d'archéologie qui est à faire.
Madame de Kermadec, pour conclure, j'aimerais encore vous poser une question, peut-être que je vous ai posé la dernière fois. Quel serait le vœu pieux que vous avez formulé? Quel serait votre souhait, peut-être, pour les mois qui arrivent ou l'année prochaine?
Ah, mon vœu pieux est que l'on puisse prendre conscience de ce qu'est la douance, de ce qui concerne quand même un certain pourcentage de la population qui aujourd'hui n'est pas nécessairement vécu comme un avantage et qui freine ces personnes qui pourraient contribuer de manière vraiment importante à la société dans laquelle ils vivent. Ce n'est pas parce qu'il semblerait aux yeux de certains d'avoir quelque chose en plus que l'on doit accepter cette différence, mais qu'on doit l'accepter comme, je dirais, un potentiel de contribution, car chacun, quel que soit son niveau intellectuel, a certainement une contribution personnelle à apporter. Donc, prendre conscience de ce qu'est l'individu et l'accepter dans cette différence. Ça, ce serait mon rêve et j'espère qu'un jour il se réalisera.
Madame de Kermadec, merci beaucoup.